Maintenant, c'est la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, vous avez lu un livre qui est très populaire. C'est celui de Jean-Philippe Plot, intitulé « Rue Duplessis, ma petite noirceur », publié chez Lux Éditeur.
Oui, tout le monde en parle depuis qu'il est sorti. Et en plus, il est finaliste au prix des collégiens. J'avais déjà parlé de Amiante, de Sébastien Dulude. C'était le 21 janvier, c'était le sujet de ma chronique. Et ce titre-là aussi est finaliste pour le prix des collégiens. Et il y en a trois autres dont je parlerai dans les prochaines semaines. Je ne pouvais pas ne pas lire ce livre puisque tout le monde en parle. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Philippe Plot la semaine dernière, qui était en rencontre grand public. Et puis...
Il était à Maria?
Non, moi, j'étais en Montérégie.
Ah bon, d'accord.
Pardon. Et il rencontrait le grand public. Et par hasard, j'étais là. Alors, je suis allée entendre sa conférence. Et depuis, j'ai dévoré le livre. Et il faut savoir que 60 cégeps présentement au Québec lisent ces cinq titres-là. Donc, beaucoup, beaucoup de jeunes vont lire ce titre. Et ça m'intriguait de savoir comment des cégepiens lisait ce livre d'un quelqu'un qui est quand même beaucoup plus vieux puis qui a vécu quand même une expérience peut-être très différente de la leur. Et j'ai un collègue qui a fait lire ce titre-là au cégep à des jeunes de première année du cégep. Donc, c'est comme quoi ce livre-là, il est universel.
Absolument.
Tout le monde, effectivement. Alors donc, c'est le 11 avril qu'on saura qui est le lauréat du prix des collégiens, mais entre-temps, on a bien le droit d'aller lire Jean-Philippe Plot, qui est un sociologue bien connu pour ses chroniques à la radio. Il a travaillé à Le Spornographe, il a travaillé avec Serge Bouchard. Et puis, c'est quelqu'un qui est né en 77 et qui a grandi à Drummondville, qui est une ville moyenne, où lui était dans un quartier de gens pauvres, finalement. Et ce qu'il prétend, c'est que à cause de ça, on ne peut pas vivre comme tout le monde quand on est dans un milieu défavorisé. C'est un petit peu sa thèse. Il avait publié auparavant « Au temps de la pensée pressée » chez Lux, toujours. C'est un recueil de différents textes qu'il avait publiés et de textes qu'il a lus en ondes à la radio. Et au moment de lancer ce livre en 2023, je crois, il a bien sûr invité ses parents qui, eux, son père est analphabète et sa mère est très peu éduqués, donc pour eux autres, des livres, c'est un objet. Ils ont dit, il y a une belle page couverture, mais ils ne sont pas venus au lancement. Et il y a des gens qui étaient étonnés de ça, et il dit dans le livre, ils viennent d'un monde où l'on rêve de s'acheter un char neuf, pas de publier un bouquin. C'est un fossé, finalement, qui s'est installé entre lui et sa famille, particulièrement ses parents, dans ce transfuge de classe.
C'est un concept... dont on a entendu parler dans des essais européens, d'abord et avant tout. En France, on en parlait souvent, puis là, c'est rendu au Québec, mais c'est universel aussi comme phénomène.
Oui, puis des fois, ça se double chez des gens qui sont, par exemple, immigrants, qui, en plus d'avoir un transfuge au niveau de la classe sociale, aussi le fait qu'ils viennent d'ailleurs et qu'ils se sentent parfois plus ou moins intégrés là où ils sont. Mm-hmm. Alors... Bref, il est question de son enfance, de l'éducation qu'il n'a pas eue, mais qu'il va avoir à retardement, de la famille dans laquelle il a grandi, des classes sociales dont il va prendre conscience seulement au cégep, et de l'anxiété que cela entraîne chez lui, dans ses relations avec les gens, et des cas d'injustice, de violence et finalement de préjugés à son égard, et à l'égard de différentes classes sociales, finalement, différents groupes de gens. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Hélène, ce livre-là.
Malheureusement, non.
Alors, c'est pas grave, on en a tellement entendu.
J'ai l'impression de l'avoir lu.
Oui, c'est ça. Alors, il dit dès le début, dans les premières pages, « Je cherche à décrire les déterminismes sociaux qui, dès la naissance, vous assignent une place dans la société. Je cherche à mettre en lumière leur reproduction à l'école, dans les mœurs, dans les habitudes culturelles. Je veux éclairer la violence symbolique de ces inégalités sociales et culturelles pour la retourner contre elles-mêmes. Mais surtout, ce livre est une lettre à mes parents, un témoignage de mon amour pour eux et pour le monde, un amour séparé par une distance de classe. Alors oui, tu as beau bien aimer tes parents, il y a des sujets sur lesquels tu ne peux absolument plus échanger à partir du moment où tu es ailleurs. Alors le roman parce qu'il dit que c'est un roman mettons, entre parenthèses, parce que c'est très, très, très autobiographique, bien sûr. Moi, je dirais plus que c'est un essai sur le sujet. Il est divisé en trois parties. La première, c'est excavation, c'est-à-dire qu'on creuse pour trouver finalement ce qu'appelle, lui, l'archéologie de moi-même. Ensuite, il y a des fondations qui dit plutôt des refondations, se faire des nouvelles fondations pour se reconstruire. Et la troisième partie, c'est les rénovations qui dit qu'ils ne sont jamais terminées. Parce qu'il y a beau avoir fait tout ça, parfois, il est confronté à une espèce de déchirement entre les gens qui l'ont connu, là d'où il vient et là où il vit, puis que finalement, au total, il n'est jamais bien là où il est. Parce qu'il n'y a plus le sentiment d'appartenir à cette classe d'autrefois et il se sent, je ne sais pas, opportuniste d'être, je ne sais pas moi, à Radio-Canada avec des intellectuels alors qu'il sait qu'il lui manque vraiment beaucoup de culture et il se demande s'il a le droit d'être là.
Bref. Ouais, le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il a des frères et des sœurs, Jean-Philippe
Plot?
Non,
il est enfant unique. Alors, il a porté sur ses petites épaules d'enfant tout l'angoisse de sa mère, la paranoïa, la peur, les obsessions de ses parents. Et il va falloir des années de thérapie, des années de distance physique pour arriver à se reconstruire. C'est un petit peu ça. Et on a beau ne pas avoir vécu exactement ce que lui raconte, ben toutes les circonstances autour de ça, on ne peut pas les nier. Ça fait partie de la vie. Et puis ça, il le sent à différents degrés. Et puis, même s'il y a des gens qui ont été plus privilégiés, il y a quand même des injustices qu'il décrit que d'autres ont pu vivre, effectivement. C'est un livre social, finalement, je trouve que c'est ça. Alors, il a pu faire des études universitaires, il est allé en sociologie, et puis bon, ben, il a réussi, on peut dire ça, mais il y a des moments où il doute encore, et il dit qu'il se sent très mal à l'aise, par exemple, quand il va au théâtre. Il dit que c'est physique, il ne sait pas comment se comporter, il ne sait pas comment se tenir dans son corps, il a l'impression, justement, qu'il n'y a pas d'affaires là. Et étonnamment, il nous a raconté la semaine dernière que l'automne prochain, il va être occupé parce que le roman, le Rue du Plessis, va être sur scène.
Ah oui?
Ouais. À Montréal ou à Québec.
Adapté pour le théâtre.
Oui, exactement. Alors là, justement, le sujet qui, lui, est souvent répété qu'il n'est pas bien au théâtre, ben là, il va être sur scène, personnifié par je ne sais qui, j'en sais pas plus long. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment cette intimidation-là qu'il a subie va le rendre parfois agressif lui-même. Alors, on comprend pourquoi ses parents, qui étaient pauvres, qui étaient un petit peu honteux, ne trouvent que la violence pour se venger, pour s'exprimer, parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas d'autre façon de faire.
C'est leur mécanisme de défense.
Exactement. Et il dit que en 2017, oui, dans les universités du Québec en général, 59 % des inscrits sont les premiers de leur famille à fréquenter un enseignement universitaire. Dans les autres universités qui ne sont pas l'Université du Québec, c'est 41%. Et dans les universités anglophones, ben c'est 35%. C'est 34, pardon. Donc, c'est beaucoup moindre que... C'est presque le double dans les universités du Québec. Comme quoi, chez les anglophones, l'éducation, ça a toujours été valorisé. Et on avait plus d'argent, en général. Et puis, bon, ben on avait des écoles. Et puis, on incitait les jeunes, on leur donnait des bourses. Il suffit de voir la différence entre étudier à l'UQAM et étudier, je ne sais pas moi, à McGill ou à Concordia. Il y a effectivement un fossé, et c'est ce qu'il raconte là-dedans, que lui, quand il allait à l'université, qui était à l'UQAM en sociologie, ben pour gagner ses études, il travaillait dans des restaurants de fast-food, et quand il revenait, il dit qu'il sentait encore la friture dans sa peau. Parce qu'effectivement, j'ai travaillé moi-même pour payer mes études dans un McDonald's, et je devais laver mon uniforme dans du Lestol pour enlever l'odeur de gras parce que ça s'imprègne terriblement. Et j'ai fait comme lui. Mes parents n'étaient pas d'accord avec mes études, alors j'ai fait ce que j'avais à faire et je me suis débrouillée. Mais à côté de ça, il raconte qu'il y a des gens qu'eux autres ont une aisance financière et le temps de loisir, c'est pour en profiter. Puis aussi pour faire de la recherche auprès des professeurs et publier des gens alors qu'ils sont étudiants. Et ça le met en colère avec raison parce que c'est vraiment une injustice, finalement. Alors, ce récit de vie n'est pas sans rappeler toutes ces lectures qu'il nous cite. Pardon, Pierre Bourdieu, le sociologue qui a fait une espèce d'échelle sociale là, dans laquelle on peut situer les classes sociales. Édouard Louis, qui a raconté son transfuge comme Annie Ernaux, Hélène Dorion, Héribon, Montaigne. Et il nous raconte des rencontres déterminantes. Il dit que c'est comme des gens qui nous donnent une échelle puis qui nous permettent de franchir quelques barreaux. Entre autres, il parle de Jacques Parizeau, de Michel Chartrand, et puis d'autres gens qu'il rencontre comme ça par hasard qui vont faire que lui va avoir une facilité à avancer. Tout à fait par hasard. C'est des gens qu'il ne connaît pas, puis c'est comme ça. Alors, cette histoire est très intime, mais en même temps, générale. Je dirais que ça touche à peu près tout le monde. On ne peut pas nier qu'au Québec particulièrement, il y a eu ça, cette noirceur-là. Et lui prétend que plus tard, quand ses parents vont être morts, il y a toute une génération de gens qui ont souffert comme ça, qui vont disparaître dans l'oubli. Et son rôle, c'était vraiment de l'écrire. Parce que sa mère lui a dit ça alors qu'il avait interviewé Édouard Louis à la radio. Sa mère a dit, ce qu'il raconte, ce monsieur-là, là, il y a plein de gens qui ont vécu ça. Il faudrait bien que quelqu'un un jour raconte ça.
Et
là, lui, il l'a pris personnel.
Donc, c'est sa mère qui a été comme l'étincelle, ce qui lui a donné l'étincelle.
Jusqu'à un certain point, il y a aussi Serge Bouchard qui a dit d'arrêter de parler de son enfance comme une enfance de marde et puis de faire quelque chose avec. T'sais. Bon, il y a tous les gens qui ont raconté, mais effectivement, cette phrase-là est dite au début et à la fin du livre. Puis il lui répond en disant, ben voilà, c'est ce que j'ai tenté de faire en faisant ce livre-là.
Est-ce qu'il a une belle plume?
Oui, puis en même temps, il est comme, comment il s'appelle, la jeune fille qui écrit là où je me terre, là?
Caroline Dawson?
Oui, il est un peu comme elle, il a voulu rendre le livre lisible pour beaucoup de...
Accessible.
Oui. Ouais. Alors oui, il y a des références à Bourdieu, à toutes ces lectures qui sont peut-être savantes, mais c'est raconté de façon très abordable, c'est facile à lire. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand il a pris des démarches, lui, il a interviewé des gens de sa famille. Puis là, eux autres appelaient son père en disant, écoute, on veut pas qu'il fasse un livre avec ça, là. Essaye de le convaincre de pas le faire.
Ça me fait penser au vrai monde de Michel Tremblay.
Oui, tout à fait. Il y a des points communs avec Michel Tremblay, même si c'est pas tout à fait le même univers. Et puis là, il nous dit qu'il a une appréhension au moment de l'écrire qui est paradoxale. Je le cite. « Ceux et celles dont je parle directement dans ce livre estimeront que je les trahis en racontant une histoire qu'ils ne pensent pas être la leur. Puis, ceux et celles à qui je ne m'adresse pas spécifiquement dans ce roman, mettons, seront nombreux à dire que je raconte leur histoire. C'est ça qui va se passer, je le sens. » Et effectivement, quand je suis allée à la rencontre la semaine dernière dans la bibliothèque, la personne qui a présenté a dit « On n'a jamais eu autant de gens dans une rencontre d'écrivains ici depuis que la bibliothèque existe. »
Ah oui? Il y avait combien de personnes environ?
Moi, j'irais 200.
Ah, wow! Une réussite!
La salle était à pleine capacité. Alors, peut-être un peu plus de 200.
Mais je pense que c'est... Je ne suis pas sûre qu'il y ait une pièce de théâtre. C'est plutôt au théâtre, en tout cas, le 23 mai, au théâtre de Lac-Brome, on présente Rue du Plessis, ma petite noirceur, et on indique que c'est une grande entrevue de Jean-Philippe Plot par Catherine Voyer-Léger.
Ah oui, mais le théâtre, c'est à l'automne prochain.
Ah, à l'automne prochain!
Oui,
à bon. OK, et désolée.
Je ne sais pas si lui participe à la scénarisation, mais c'est moi, je trouve que c'est une belle entourloupette parce qu'il nous décrit vraiment comment il se sent pas bien au théâtre et que pour ses parents, c'était des c'était tous des snobs qui allaient là. Puis bon, bref, c'est intéressant.
Tout oui.
Ça. Et puis bon, ben pour la transmission, ben je pense que là, lui, il a vraiment réussi en interviewant tous les gens de sa famille, en faisant des recherches et des lectures, à rendre ce livre-là accessible. Et je dirais qu'il a une parenté avec les films de Pierre Perrault. Puis il dit qu'un jour, il faut qu'il interviewe son père pour briser justement ce silence autour de ces classes-là qui sont jugées honteuses, pauvres, inintéressantes. Alors, il y a des choses qui sont révoltantes. Moi, j'ai réagi en lisant ça, puis je me disais, on n'est pas sorti du bois. On pense qu'on va beaucoup mieux, puis qu'on a beaucoup avancé. Mais comme il dit, lui, la révolution tranquille n'est pas terminée. Alors,
ouais.
Je pense que si vous avez aimé Hakim Gagnon, Élise Turcotte, Erika Soucy, Caroline Dawson, vous allez aimer ce livre-là qui traite d'une manière très intime d'un transfuge de classe et des difficultés dans la société aujourd'hui que ces gens-là peuvent vivre en essayant de s'intégrer. C'est incroyable. En tout cas, moi, j'ai été bouleversée par ce livre-là.
Jean-Philippe Plot, donc, qui est animateur le dimanche, je crois bien, oui, de l'émission Réfléchir à voix haute, et ça depuis 2021. Et vous nous parliez de son livre le plus récent, Rue du Plessis, Ma petite noirceur, publié chez Lux Éditeur. Merci de l'avoir lu pour merci nous. Et puis, la semaine prochaine, vous allez continuer avec un autre livre qui est dans la course, oui, au prix des collégiens, prix littéraire, ouais, des collégiens et collégiennes. OK. Lequel?
Ah là, je ne sais pas, je n'ai pas commencé.
D'accord. Bonne lecture, bonne semaine. Merci Anne-Marie.
Au revoir.